you really ready?
You can't be serious. You cannot be serious.
J'adore le tennis.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans OxyTennis, l'actualité du tennis en Haute-Garonne et tout autour. C'est maintenant sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain. Pour la beauté du geste, la vie fera le reste. Pour la beauté du geste. Souvenez-vous, Melbourne, 29 janvier 2017. 23h05, 3h28 de match, 5e set, 4-3 Federer, Nadal au service, 40 à.
Quelle défense là! Il va venir! Quel point!
Le point monumental!
Oh, le point de mutant!
C'est le point du match! Un point de géant!
Oh là 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 là, le point de mutant! Oh, le point!
Oh, le dernier coup droit, puis ouvert, droit devant.
Mais vous pensez qu'on le reverra combien de fois dans les 50 prochaines années, ce point, hein? Il est dans la légende.
Tous les amateurs de tennis ont en mémoire cet échange d'anthologie qui, parmi tant d'autres, participe de la légende Roger Federer.
Mais vous pensez qu'on le reverra combien de fois dans les 50 prochaines années, ce point, hein? Il est dans la légende.
Vous pensez qu'on le reverra combien de fois dans les 50 prochaines années, ce point? Il est dans la légende. Ce commentaire illustre parfaitement l'émission que nous allons consacrer au maestro, Roger Federer.
Oh, c'est un festival, de fusil, là.
Un festival.
Il sort de sa boîte.
Le 23 septembre, lors de la Lever Cup, Roger a donc disputé un dernier match en double avec son ami Rafael Nadal. Match conclu après une défaite anecdotique qui met un terme à une carrière exceptionnelle. Cette ultime association est symbolique. Novak Djokovic n'avait pas manqué de la commenter en juin dernier. Roger Federer est un violon, Rafael Nadal une guitare électrique. Ces trois joueurs d'exception nous ont enchantés durant presque deux décennies. Ils se sont affrontés à 149 reprises sur le circuit ATP. La première confrontation Federer-Nadal remonte à mars 2004, 18 ans déjà. Le Suisse, numéro 1 mondial, s'incline en 2-7 face à Nadal, 17 ans, 34e joueur mondial. Deux ans plus tard, Federer et Djokovic, 19 ans, 65e à l'ATP, inaugurent leur adversité. Roger gagne à Monte Carlo en 3-7. Au final, Roger totalise 39 victoires pour 51 défaites face à ces deux challengers. La formation de Federer est un parcours classique. Débuté à 8 ans, au TC Old Boys de Bâle, puis à Écublens. Adolescent dissipé, effronté, parfois coloreux, mais très assidu à l'entraînement. Dans l'équipe, Christophe Freys témoignait. Mais il avait une main et un œil. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il pensait à faire des coups que personne d'autre n'aurait tenté. Il me sidérait. Notre quiz tennis de novembre faisait d'ailleurs allusion à cette période. À l'âge de 13 ans, Reto Schmidli inflige un 6-0-6-0 à Roger, 10 ans, dans un tournoi de jeunes à Bâle. C'est la seule bicyclette subie par le maestro. Notre premier invité a rencontré un Roger encore anonyme. Entraîneur à la Fédération Suisse de Tennis pendant 5 ans, il nous évoque celui qui allait devenir un des plus grands joueurs de tous les temps. Georges Degnaud est dans OxyTennis sur Radio Galaxy.
Georges, merci d'être à l'antenne de Radio Galaxy.
Bah écoutez, c'est tout à fait normal. Je suis très, très heureux de vous avoir au téléphone.
Bien écoutez, cher Georges, je crois savoir que vous avez une attache très particulière avec l'Occitanie, et notamment Argelès-Gazost, où vous avez commencé le tennis.
Oui, j'ai commencé le tennis à Argelès-Gazost, dans les Hautes-Pyrénées, où nous étions en vacances quand la guerre a été déclarée en 1939, et nous sommes restés chez mon grand-père, et puis il y avait un cours de tennis, on a un peu joué au tennis, et puis mon père nous a fait jouer au tennis aussi, aux vacances où on venait chez mon grand-père à Argelès, quand par la suite nous avons habité à Paris.
Ah bah parfait. Donc là, vraiment le début d'une belle carrière. Quand avez-vous rencontré Roger Federer pour la première fois?
Alors, pour la première fois, je vais vous raconter une histoire peut-être qui va vous étonner. La première fois que je l'ai rencontré, je ne savais pas qui était Roger Federer. C'est lorsque j'étais responsable du tennis suisse, responsable technique. Je faisais une intervention à Bâle. Et à ce moment-là, il était très jeune. C'était une intervention pour l'entraînement, sur l'entraînement des jeunes, et notamment des jeunes des petites tranches d'âge, 11-12 ans. Et donc, j'avais demandé, il y avait tous les professeurs de la région qui étaient là, il y avait, et puis, mon intervention, c'était sur l'entraînement pour les jeunes. J'avais demandé qu'on me donne les meilleurs jeunes de 11-12 ans, 10-11-12 ans. Et on m'en a passé 4. On a fait une séance d'entraînement. J'ai fait ma démonstration. J'ai fait donc l'intervention que j'avais à faire avec les joueurs. Et ils jouaient tous, les 4 jouaient bien. Et je ne me suis pas occupé de leur nom, de leur prénom, ni de quoi que ce soit. Par la suite, il y a un qui m'a demandé... si j'avais repéré un particulièrement, j'ai dit, écoutez, si j'en avais remarqué, pardon, un particulièrement, je vous le dirai pas parce que c'est pas un âge où il faut s'occuper d'entraîner en prévoyant qu'ils vont devenir bons ou pas bons. Un entraîneur doit donner le maximum et en l'occurrence, je vous le dirai pas, même si j'en avais reconnu un, parce que il y a aucune raison de le mettre en évidence par rapport aux autres. Quelque chose comme ça. Comme je vous dis, j'ai su par la suite, et c'est lui qui me l'a dit, qu'il était à cet entraînement.
Alors effectivement, je trouve que c'est remarquable d'avoir l'intime peut-être conviction d'avoir identifié un potentiel, effectivement de ne pas le sortir du lot. Vous êtes certainement un des meilleurs techniciens du tennis de ces 40 dernières années.
Non, je ne sais rien, peu importe, il n'y a pas de classement.
Des journalistes vous comparent à Nick Bollettieri. Quand avez-vous identifié l'énorme potentiel de Roger Federer?
Alors, ce qui s'est passé, c'est par la suite, Roger est venu au Centre national suisse, du tennis suisse, au Centre national, l'année où je le quittais. Et le Centre national, que j'avais dirigé pendant 4 ans, le Centre national, c'est mon adjoint, Christophe Freis, et l'entraîneur qui par la suite est devenu l'entraîneur physique de Roger, qui ont pris le relais et qui ont pris la direction de ce centre national. Et dans l'année où j'ai quitté, ils ont sélectionné Roger et l'ont engagé au centre national où il a été pris en main par 2 techniciens. Et on peut dire qu'il y en a un qui était mon adjoint pour la préparation physique, c'est Pierre Paganini. Roger avait avec Pierre une telle confiance qu'il l'a par la suite pris comme entraîneur privé et il l'a toujours du reste jusqu'à ce qu'il arrête sa carrière.
Oui, en effet. En juillet 2018, un média qui s'appelle Slate vous avait demandé de noter les 8 caractéristiques du bagage technique de Roger Federer. Pour ce qui est de son mental, pour vous, c'est 10 sur 10. Et vous disiez, il ne renonce jamais. Est-ce pour vous son point fort?
Ben écoutez, à l'époque, je faisais aussi des articles dans Tennis Magazine, le Tennis Magazine, pas celui maintenant parce que il a été racheté, celui qui était dirigé par Jean Couvercel, et il me demandait toujours de donner des notes à tous les coups des joueurs. Alors on sélectionnait le coup droit, le revers, le smash, etc., le jeu de jambes, le mental, le physique. Et donc, je donnais des notes. Et les notes que je donnais à Federer étaient forcément des très bonnes notes. Je l'ai fait deux fois sur lui dans la revue. Et la deuxième fois, je crois que j'ai dit le mental, je mets 10. Et je crois que Jean Couvercel m'a dit, mais on met 10 à personne. Eh ben écoute, je lui dis, si Dieu joue au tennis, on mettrait 10. Alors moi, le mental, on lui met 10. Alors, on en a discuté en plaisantant. Et finalement, je crois qu'on avait mis 10 pour le mental de Federer. Et les autres coups étaient tous très, très bons.
Oui, ben effectivement, vous n'y étiez pas trompé. Parce que je crois que la plus mauvaise note que vous lui donniez, c'est tout dire, c'était 8-5 pour le retour de service. Donc, voilà. Bon. Cher Georges, merci une fois de plus pour vous nous avoir apporté un éclairage plus que pertinent sur Federer. Merci encore.
Ok, et ben voilà.
La légende Federer débute probablement en 2001 quand à Milan, il remporte son premier tournoi. Elle connaîtra son apogée de 2004 à 2012 avec près de 80 titres et une trentaine de finales. Grand Chelem, circuit ATP, Coupe Davis et Jeux Olympiques. Wimbledon a été son tournoi préféré. Il y a remporté 8 titres. Benoît Mélin nous raconte sa toute première rencontre londonienne avec Roger Federer dans des circonstances assez cocasses. 1998, Wimbledon, vous tombez quasiment nez à nez avec un quasi-inconnu, Roger Federer.
Oui, ça c'était pas mal, effectivement. Mais en fait, à l'époque, je commentais pour une chaîne qui s'appelait Pâté Sport, et on avait eu les droits de quasiment tous les Masters 1000, les 500, les Grands Chelems, enfin bon, c'était le pur bonheur, et on était tout le temps sur le circuit, en fait. Et je commentais avec Thierry Champion. Bon, quand même, allez, je précise, Thierry Champion, c'est un ancien grand champion de tennis français qui a été plusieurs fois en quart de finale dans les tournois des Grands Chelems et qui était réputé pour être un petit peu le pirate. Il avait un bandeau, les cheveux blonds et tout ça. Enfin, voilà. Il avait un certain charisme, on le reconnaissait dans la rue. Même à Wimbledon, où il a fait un quart de finale à Wimbledon. Et puis, là, bon, il a arrêté sa carrière. On a fini de commenter tous les deux. On se dit, tiens, si on allait se prendre une petite bière tranquille au pub du coin à côté du site de Wimbledon, bon, on s'assoit tranquille, on papote. Et puis là, au bout d'un moment, il y a un ancien copain de Thierry Champion qui est entraîneur de tennis, qui s'appelle Peter Lundgren, et qui arrive et puis qui reconnaît Thierry Champion, qui nous dit, oh, bah super, vous êtes là, c'est cool. Et tiens, je voudrais vous présenter un petit jeune. Alors, bon, on se dit, bah ouais, pourquoi pas. Et le petit jeune était derrière Peter Lundgren. Peter Lundgren, c'est une bête, hein. Attention, hein. C'est du suédois, mais costaud, hein. Genre barrique. Et on n'avait pas vu le petit jeune. Et le petit jeune qui pousse la tête comme ça sur le côté pour qu'on le voie et qui nous dit bonjour, comme ça, avec un... Mais en français, déjà, ça nous a surpris, mais avec un petit accent. Les cheveux assez longs, un peu blonds, peroxydés... Pas mal d'acné, bon, pas facile, très timide. On voyait qu'il était très timide. Et en fait, il était impressionné, quoi, apparemment. Et puis, Peter Lundgren nous dit, bon, je m'assois avec vous. Bah, tiens, assieds-toi. Allez, Roger, assieds-toi. Puis on lui dit, mais comment il s'appelle ton copain, là? C'est Roger comment? Oh, bah, c'est un petit gars qui commence à bien jouer, là. C'est Roger Federer. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il a du talent et tout ça. Et on connaissait pas du tout ce gamin. Pas du tout. Donc nous, avec Thierry Champion, on lui pose des questions, on lui dit « Est-ce que tu veux une bière ?» Alors, autant vous dire que le Roger, il nous a dit « Bah non, 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 je ne bois pas de bière. Je vais vous prendre une citronade, si vous voulez, un thé chaud. » Et puis on a papoté, tranquillement, en lui disant « Alors, et comment tu joues ?»« Ah, bah moi, je suis plutôt délier, j'ai revers à une main, j'aime bien vos filets, j'aime bien créer, tout ça. » Bon, ok, d'accord, super. Et puis bon, bah tu te vois aller loin. Ouais, ouais, oh, bah, de toute façon, hein, moi, je joue pour gagner, hein. Donc, si je peux en gagner plein, bah, j'essaierai d'en gagner plein. Et le mec, très sympa, mais on voyait bien qu'il regardait Thierry Champion comme ça, avec un petit air, un petit peu gêné, tout ça. Ah bon, Thierry Champion lui a dit, mais ça va, t'es bien. Il me dit, bah oui, mais bon, quand même, je vous connais, je sais ce que vous avez fait, vous avez été quart de finaliste en Grand Chelem, c'est impressionnant pour moi. Et quand on l'a revu des années plus tard, le Roger Federer, je lui disais, mais tu te rends compte que tu étais impressionné par Thierry Champion qui avait été deux ou trois fois de finaliste et t'en as gagné 20. Et il me disait, mais tu sais, moi je me souviens que d'une chose, c'est que en fait, vous m'aviez invité à prendre ma boisson et j'avais trouvé ça super cool. C'est dingue, hein, les souvenirs. Et il avait 17 ans et demi, il commençait. Et il était tout timide.
C'est l'année où il avait gagné Junior, hein ?
Exactement, exactement.
Attends, hein.
C'est l'année où, 10 jours après, il gagnait Wimbledon chez les juniors.
Bon. Et vous n'avez pas gardé le verre dans lequel il a bu sa citronnade, là ?
Non, j'en suis pas là, non.
Sur l'ensemble de sa carrière, Roger Federer remportera 103 tournois, devancé par Jimmy Connors, 109 titres, dont le décompte incorpore, semble-t-il, des victoires en exhibition. Au classement ATP, Roger était classé aux alentours de la 800e place en septembre 1997. Exactement 2 ans plus tard, il rentre dans le top 100, met un pied dans le top 50 en mars 2000 et devient numéro 1 mondial en février 2004. Il y restera sans interruption pendant 4 ans et demi et 310 semaines sur l'ensemble de sa carrière, presque 6 années au sommet. Il a dominé sa génération et établi de nombreux records, dont celui d'être le numéro 1 mondial le plus âgé à presque 37 ans. Il est déjà rentré dans l'histoire, mais ses performances sont déjà égalisées et même dépassées.
Selon une dernière enquête au Doxa, il s'avère que les Français jugent Nadal le meilleur joueur de l'histoire, mais les amateurs de tennis préfèrent Federer. Djokovic, qui détiendra certainement le plus grand palmarès, n'est que 4e derrière Borg. Bon alors, selon vous, pour trancher, Federer, le GOAT, le meilleur, le plus quoi ?
J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que cet organisme qui vous a classé Djokovic derrière Borg. Déjà, c'est énorme, mais enfin bon. Federer, Nadal, Djokovic, Borg, McEnroe, Connors, Edberg, Wilander, Becker, Sampras, Agassi, Kiel Gautrand Lever, qui a révolutionné le tennis avant l'Air Open en 1968, qui a gagné 2 fois le Grand Chelem. Personne n'arrive à faire depuis, hein. Il l'a fait 2 fois, lui, la même année, en 62, en 69, à une époque, bien évidemment, où le tennis n'existait pas, les gens ne regardaient pas le tennis, où on jouait 3 des 4 tournois du Grand Chelem sur gazon. Oui, bien sûr, qui est le GOAT. Vous savez quoi, je m'en contrefous de savoir qui est le GOAT.
Je pense qu'il y en a un qui aurait pu perturber un peu la suprématie de ces 3 lascars, là. C'est pas Wawrinka, c'est pas Murray, je pense que c'est la Tour de Tandil, la Del Potro. Je pense que ce gars-là avait vraiment le gabarit pour s'y frotter à ces 3 oiseaux-là. Je pense qu'il avait vraiment la puissance, voilà.
Ben oui, mais c'est bien de se frotter, mais il faut le tout, c'est d'être en contact permanent avec eux, et le but du jeu, c'est d'être là, de pas se blesser. Alors il y en a qui ont de la chance, il y en a qui arrivent à passer entre les blessures, il y en a qui sont vraiment bien préparés par rapport à ça. Après, le problème, je pense, d'un gars comme Del Potro, c'est qu'il était beaucoup trop grand pour pouvoir être à ce niveau-là. C'est des joueurs qui ne dépassent pas 1m90. Même si on a tendance à aller un peu plus haut dans les tailles, dans les mensurations des joueurs, dans le poids, dans la puissance, on se rend compte quand même qu'un joueur qui fait plus d'1m95, c'est très très compliqué pour lui de pouvoir se déplacer, surtout de pouvoir répéter ce genre d'effort pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, que maintenant, si on veut faire une carrière à ce niveau-là, si on veut aller se frotter aux GOAT, comme vous dites, il faut au minimum faire une carrière qui va durer 15 années. Et on peut se poser la question d'un Carlos Alcaraz qui est déjà en train d'avoir des petits problèmes de blessures. Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'un jour quelqu'un puisse arriver à rivaliser avec ces 3-là ? Je sais pas, j'en sais rien. Federer ne dans 20 ans, Federer ne sera certainement pas considéré comme le GOAT, puisque ce sont des gens qui ne l'auront pas vu jouer.
Ouais.
Et qui se référeront aux chiffres,
puisque
les chiffres servent de base, et il n'aura pas les records. Il n'en aura peut-être même plus un, puisque jusqu'à présent, il a encore le record de celui qui a gagné le plus grand nombre de Masters, puisque on est dans l'actualité, mais peut-être que Djokovic va l'égaler.
C'est lui qui a le ratio de matchs gagnants le plus élevé encore, mais bon, ça ne durera pas forcément. Hein.
On peut toujours, après, si on veut rentrer dans le détail, se rendre compte qu'il a gagné le plus grand nombre de ses matchs à une époque où il n'y avait ni Nadal, ni Djokovic. Une époque, maintenant c'est fini, mais on a eu la chance de vivre pendant au moins 10-12 ans, plus d'une décennie en tout cas, avec ces 3 joueurs qui sont hors du commun, quoi, et qui marqueront l'histoire pour l'instant pendant quelques années, et puis on verra bien ce qui se passera par la suite, mais on a eu la chance de les voir jouer, c'était génial.
Au terme de ce premier épisode, merci à Monsieur Georges Degnaud d'avoir très amicalement évoqué les débuts de Roger Federer. Benoît Mélin, pour la pertinence de ses commentaires, vous retrouverez Benoît sur Winamax TV dans son émission Sans filet. Merci à Eurosport pour l'illustration sonore de début d'émission. Vous pourrez suivre l'Open d'Australie sur Eurosport à partir du 16 janvier. Pour la beauté du geste, la vie fera le reste. Pour la beauté du geste. Toute l'équipe d'Oxytennis vous donne rendez-vous le samedi 7 janvier à 12h30. Dans ce second épisode, consacré à Roger Federer, nous recevrons Jean Couvercel, fondateur de Tennis Magazine, et Frédéric Valois, co-auteur avec Charles Haroche de Federer, un mythe contemporain chez Solar. Gilles Moreton, président de la Fédération française de tennis, apportera son témoignage. Passez de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain. Dès mardi prochain, vous pourrez toujours réécouter cette émission en podcast sur la page Oxytennis de RadioGalaxy31.com.
Excusez-moi.
Oui.
Ça vous dirait de prendre un café?
Je peux pas, j'ai tennis.
À très bientôt.
Jeu, set et match.